Olivier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui débarque d'un train de banlieue. Il avance sur le quai sans savoir où il va vraiment. Il porte à la boutonnière de son blouson un coquelicot de son enfance. Légion d'honneur innocente qui se fane avec le temps. Le temps de devenir chanteur, comédien ou écrivain. Les trois peut-être, on verra bien. Ses yeux s'écarquillent au fronton des lumières d'un music hall parisien. Et puis, le temps va comme il veut. Le temps va comme il vient. Et tout avance à la vitesse d'un train fantôme qui ne s'arrête plus dans les gares. Le jeune homme se retrouve sur un passé qui a façonné son avenir. Il s'est inventé une vie tellement si belle qu'elle est devenue sienne. Il la porte dans ses bras, dans ses rêves, chaque jour que Dieu fait. Et elle ressemble à son enfance. Elle l'a menée jusque-là. Jusqu'à l'entrée de ce studio où j'accueille aujourd'hui, en votre nom sur l'antenne d'Europe 1. Avec une complicité poétiquement incorrecte. Celui qui ne sera jamais une grande personne, comme le disait Jean-Loup Dabadie. Un artiste, un vrai, Monsieur Marc Lavoine. Marc Lavoine, bonjour.
Bonjour Didier, ça va?
Et toi?
Ouais, ça va.
Tout va bien?
En un mot, bien.
En un mot, bien.
En deux mots, pas bien.
J'aime bien... Tu sais, c'est comme dans les tontons flingueurs. Comment ils disaient... C'est bizarre cette manie chez les poètes de vouloir toujours faire des phrases.
C'est joli.
On écoute ton premier choix. On se jette. Monsieur Serge Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là, on est pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'à son épreuve. Dis adieu à jamais. Et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux. Et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. Apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret. Te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Tu suffoques, tu blémis. À présent, que ce n'est l'heureux. Des adieux à jamais. Je suis heureux. Je te dis que je m'en vais. Oui, je t'aime. Oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Car ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
mon Dieu.
Serge Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais, 3 minutes 13. Je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour les chansons qui durent 3 minutes 13. Et celle-là, particulièrement, elle est
sublime. C'est-à-dire que
sublime.
On se rend compte à quel point il a le temps, quoi. Ils ont le temps de faire des chansons et de les chanter. Ils prennent le temps d'aller au bout du système sans que tu ne t'ennuies, parce que c'est assumé, c'est les mêmes mots tout le temps différents, c'est la même base tout le temps différente.
C'est-à-dire les mots tournent en même temps que la musique, c'est ça qui est magique.
C'est génial. Non, mais c'est très rare de faire des chansons comme ça. Bon, lui, il a cette fâcheuse manie d'en faire des très bonnes tout le temps. Mais ce qui est bien aussi dans ces chansons-là, certaines chansons de Gainsbourg, pas toutes peut-être, mais certaines, démarrent avec le thème musical principal, le poisson de lilas et la phrase clé. Ce que faisait Trainet aussi avec Je chante, avec Il y a de la joie, c'est un genre de chansons. Le vieux piano de la plage, toutes ces chansons-là, elles démarrent par le titre, avec la mélodie principale. Et j'adore. Tu vois, il y avait des arbres, des coteaux. Ça démarre par le thème. Et lui a beaucoup fait de chansons comme ça. Et j'adore ça. Babylone in Babylon, Fur le bonheur, pour lui ou pour Jane. Et j'aime bien cette façon de construire les chansons, un peu comme les Rolling Stones. Il y a les chansons plus Beatles où tu fais couplet puis le refrain.
C'est ça.
Et les Stones, tu
dans le sujet tout de suite.
T'es direct dedans. J'aime bien cette façon.
Mais en plus, c'est une assez juste théorie, si tant est qu'il puisse y avoir des théories en chanson. C'est que on se rend compte à l'écoute, nous les auditeurs, quand on est dans la peau de l'auditeur, on a 8 phrases et 26 notes pour rentrer dedans. Tu vois, t'as remarqué que si on n'est pas chopé tout de suite...
Ah bah il faut choper tout de suite.
On se désintéresse un peu du truc, et quelquefois c'est dommage, mais c'est comme ça.
C'est ce que disait Estardi. Une chanson, c'est la tonalité, la construction et le tempo.
Exactement.
Si on a ces trois éléments, c'est comme en imprimerie, tu sais. J'ai appris ça quand j'étais imprimeur.
Ah, je vais t'en parler de l'imprimerie.
Il y a trois éléments qui font que le caractère peut tenir le coup. Et c'est important d'avoir du caractère. Et d'ailleurs, pour le cheval, c'est pareil, j'ai remarqué. Il y a un truc avec le cheval qui est comme l'écriture. D'un coup, si tu laisses galoper lui, ben, ça te fait mal, t'y arrives pas. Puis, si on galope ensemble, parce qu'un cheval, ça obéit pas à un homme ou à une femme, ça obéit à un cerveau, il y a un truc particulier. Et quand on commence à pouvoir chevaucher un peu, eh bien là, c'est comme quand on écrit, d'un coup, les mots, ils vous le rendent, quoi.
Dis-moi. Ouais. Quand même, je regardais la date de la création de la chanson.
73.
Ouais, t'avais 11 ans. La première fois que t'as entendu ça, tu t'en souviens?
Oui, non, d'abord j'ai entendu Melody Nelson, mais c'était particulier parce que j'étais chez Madame Grove Angèle, qui était une résistante qui était dans le livre de la résistance d'ailleurs. Elle était camarade du parti de mes parents. Mes parents étaient dans la cellule de Angèle. Et donc, elle avait des enfants, 3. Et lui, Marc, le plus jeune des enfants, il était très beau, c'était un mec avec une chemise blanche, un jean, les cheveux un peu comme ça. Il avait un appareil photo, un Pentax, et il était dans sa chambre qui était un entresol. Et moi je regardais dans le jardin, j'étais dans le jardin de la maison, et je le voyais photographier une fille qui était un peu nue sur un lit. Et il avait des parapluies de
photographes,
ça flashait dedans, et il écoutait Melody Nelson en boucle, en binique comme ça. Ça m'avait... J'étais resté devant cette séance... sans qu'il ne me voie, et ça m'avait beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était très charmant de voir dans un jardin, du jardin, un petit peu éclairé par le soleil et tout, tu vois, c'était assez beau en banlieue, et ça m'a plu, donc j'ai cherché ce que c'était que ce type-là, comme mon père connaissait pas mal cette musique-là, il aimait le jazz, mon père, donc il aimait bien le Gainsbourg jazz. Et puis là, 73, c'est l'album pour moi parfait, c'est un album où toutes les chansons sont incroyables. Celui-là, je l'écoute pratiquement tout le temps, tous les jours.
Et toi, t'avais 11 ans, là. Et c'est ta période... C'est marrant parce que je connais un petit peu quelque chose de ta vie. Et je me disais, non, ça devait être sa période de Jean Ferrat auprès de ses parents.
L'un n'est pas...
Marc, l'un n'est pas antinomique.
Non, pas du tout.
Non.
Nous, on écoutait tout. Mes parents étaient contre toutes ces formes de ségrégation, à commencer par l'art. Il lisait du Neruda, puis il lisait d'autres choses. Mon père adorait la chevauchée fantastique, mais il aimait aussi le film de Sautet, les films italiens, les comédies. Il n'y avait pas de problème là-dessus. On écoutait Nougaro, mais on pouvait écouter Fernandel, c'était pas un problème. C'est ça qui m'a fait discerner le monde.
On fait une toute petite interruption avec mon invité Marc Lavoine, et ce sera pas une surprise pour toi, mais pour nos auditeurs, je peux te dire que tu vas leur faire une découverte.
Ah bon?
Didier Barbelivien sur Europe 1. Europe 1.
Europe.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
On est toujours avec mon invité Marc Lavoine dans « Dis-moi ce que tu chantes ». Et quand je parlais tout à l'heure de découverte, je crois que pour le public qui nous écoute, ils vont franchement découvrir quelque chose parce que c'est pas une chanson qu'on a l'habitude d'entendre à la radio. Il y a plein de gens qui la connaissent pas. Ouais. Et pourtant, je serais tenté de dire « Attention, chef-d'œuvre ». Et on le prouve, on l'écoute. Ça s'appelle « Les séparés ». C'est interprété par Julien Clerc.
N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur. C'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écoutez que tu m'aimes. C'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois briller à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunt sur mon cœur. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écoutez que tu m'aimes. C'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas.
Julien Clerc, Les Séparés, en compagnie de mon invité Marc Lavoine. C'est vous dire si nous, on n'est pas séparés. Et alors, on bavardait là, comme deux... comme deux vieilles femmes, ouais, sur le sur le pas de la porte de la maison, et
on admirait.
On admirait.
C'est-à-dire que les yeux sont pas assez grands pour rendre hommage à cette personne qui a écrit une littérature totalement presque surréaliste, presque dadaïste, presque impressionniste. J'ai vraiment un truc, c'est un mélange de tout. Parce que tu vois, c'est des déhanchements, c'est comme un tango, c'est-à-dire que tout bouge et tout est là, c'est simple et c'est très écrit. Vraiment, c'est une merveille cette chanson. Je trouve que vraiment, là, Julien en plus l'interprète vraiment bien, il a fait une mélodie qui part là-haut, quoi. Et puis, alors, c'est un temps dans le ciel sans y monter jamais. C'est juste extraordinaire, je trouve. Moi, cette chanson, je ne m'en lasse pas.
Et regarde, j'en ai colorié deux, ouais, devant mes yeux.
Vas-y, dis-les.
Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. Mais qu'est-ce qu'on donnerait, toi et moi, pour écrire un truc comme ça?
Chaque phrase pratiquement, ouais, chaque phrase est à elle seule une sorte de truc. Il y a un psaume que disait, qui ressemble un peu à ce genre de truc, qui a été dit par Daniel Darc sur l'album Crève-Cœur.
Ah oui,
c'est le Seigneur et mon berger, je ne manque de rien. Il traverse comme ça sa prairie musicale, en disant ça d'une simplicité, mais vraiment c'est peut-être pas aussi beau que ce texte-là, mais quoique, c'est quand même. Mais Daniel Darc avait aussi cette façon de faire vibrer les mots, il les réécrivait presque. Il y a des gens qui font ça. Tu leur donnes un texte, et puis tu le donnes à quelqu'un d'autre, t'entends rien, et tu le donnes à telle personne, et d'un coup, c'est comme s'il finissait l'écriture. Il lit le tout, et il donne une vie. Là, Julien, il a fait ça sur...
Ah bah oui, parce que, franchement, faut y aller, quoi.
Ouais, faut y aller.
Moi, si je la mets sur le piano, c'est pas évident que je vais sortir ça, tu
vois. Il a fait ça avec Souffrir partout et pas souffrir, des chansons comme ça, qui sont un peu des chansons... moins surréaliste que celle de Roi d'Agile, mais quand même qui frite. Maurice Vallet aussi frisait un peu comme ce côté un peu à la limite du surréalisme, qui donne à la réalité quelque chose d'encore plus gracieux, parce que nous sommes surréalistes en fait, quand on s'aime, quand on s'aime plus, quand on se fâche, quand on rit, c'était des trucs, moi j'ai des copains avec lesquels on peut dire un seul mot, on peut rire une semaine, c'est surréaliste quand même. Et on est étonné de ressembler à ce qui est écrit là. Je trouve que c'est un grand commun dénominateur, le talent de la poésie. C'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux, la poésie.
Et c'est drôle parce que ouais, j'ai lu ça dans ton parcours de vie. Et d'où t'es venue cette passion? Parce que quand même, c'est pas évident d'aimer les surréalistes, d'aimer Zara, d'aimer Desnos, d'aimer tous ces hommes-là. D'aimer même Éluard. Qui est le plus...
Mes parents me parlaient de ça toute la journée. Quand j'ai entendu Le Dormeur du Val pour la première fois, j'ai cru que je rêvais. Parce que c'est un texte qui parle de la vie tout le long, sauf les deux dernières phrases. Et donc c'est ce qui rend acceptable la souffrance du partir. C'est toute cette lumière, cette simplicité dans la beauté de la nature. C'est ça l'art, c'est ça, c'est savoir regarder ce que les autres ne voient pas dans la nature. C'est tellement... Je me souviens d'une fois, j'étais sur une plage, puis il y a une fille qui me parlait, j'ai dit, je suis en train de regarder le coucher de soleil. Non, il y en a un autre demain soir. Mais il n'arrive pas à comprendre que cette minute-là, où le soleil va s'ouvrir les veines dans l'eau, et puis ça va rougir partout, je trouve que ce moment-là, il n'est jamais le même, il est... Tout le temps, c'est tout le temps une question qui est posée. Et la poésie, c'est ce que disait Prévert, c'est le plus joli surnom qu'on peut donner à la vie. Je trouve qu'il a tout dit. C'est vraiment, c'est un câlin, quoi. Le mot câlin, d'ailleurs, que je mets dans le train, c'est drôle, mais j'ai failli l'enlever. Tu vois.
Il
me semblait être trop intime. J'ai failli y mettre Le Temps d'un chagrin. Mais bon, c'était peut-être plus noble. Et puis, je me suis dit, mais t'es con, quoi. Arrête de faire chier le monde avec tes doutes. T'as écrit ça, tu l'as écrit, il y a peut-être une raison pour ça. T'es pas maître de tout ce que tu écris non plus. Donc, bon, je le laisse. C'est le seul mot d'album que je voulais changer. Je fais une interview avec une jeune femme. Elle me dit, je peux vous poser une question sur un mot dans la chanson. Elle me dit, le mot câlin, est merveilleux ce mot-là. Parce que là, je me suis senti visé, je me suis senti chez moi avec le câlin que je peux faire à quelqu'un. Et c'est rare d'employer ce mot-là dans une chanson. Et je lui dis, vous savez, j'ai failli l'enlever. Elle m'a dit merci d'avoir laissé ça, parce que j'aime beaucoup ce mot. C'est des petits mots à la con, c'est des petits gens avec des petites mains d'ouvrière, tu vois. C'est ça qui me plaît dans la poésie.
On se retrouve dans un instant avec mon invité, Marc Lavoine.
Didier Barbelivien sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes. Par Didier Barbelivien.
On est toujours avec mon invité.
invité de ce dimanche après-midi, Monsieur Marc Lavoine. Vous avez vu tout à l'heure comment il raconte bien la poésie, mon ami Marc. Hein. C'est important d'entendre quelquefois des hommes être devant l'humilité des mots.
C'est ça la poésie. Quand Camus raconte des fleurs, le couteau, la chaleur, la prison, on est dans une poésie de roman. Il y a des romanciers, il y a des écrivains, il y a des poètes. J'aime les écrivains qui ont cette poésie, qui nous font regarder le livre autrement que de le lire simplement. Et ça c'est infini, c'est un horizon, c'est magnifique. Moi, j'adore ça.
Et là, on va retrouver, une sorte, je le connais bien, de poésie du quotidien avec un artiste qu'on a adoré tous les
très
deux.
Très grand texte.
Magnifique. Et on a même interpréter cette ensemble. Chanson ensemble. Ça s'appelle « J'étais un ange ». C'est interprété par Michel Delpech.
Avant ma première cigarette, avant d'avoir menti un jour à mes parents, à mon enfant, avant d'avoir été un autre, avant d'avoir touché mon corps, avant d'avoir connu l'orgueil, avant que la peur me fascine, avant d'avoir eu des angoisses, avant d'être cet imbécile, cet homme que plus rien ne dérange. J'étais un ange dans mon habit de communion, quand je tenais la main de maman. J'étais un ange, un ange, un ange. Je passe zombie dans la ville, un ange. Un ange, pas ce corbeau noir inutile, un ange. Avant d'avoir eu des copains, un peu voyous, un peu malin, faiseur de poche, voleur de fruits. J'étais ton petit gamin, un ange.
Michel Delpech, J'étais un ange, le choix de Marc Lavoine dans Dis-moi ce que tu chantes.
C'est pas seulement mon choix, c'est que on aurait pu passer cette chanson, une autre chanson dont je vais parler. Je vais citer l'auteur là, ici, Madame Rêve. Quand, c'est Pierre Grillet qui m'a dit, tu connais cette chanson de Delpech, ça fait un an. Et Pierre est un très bon écrivain, très bon, très joli. Enfin, j'aime beaucoup comme il écrit. Et Et il m'a fait découvrir cette chanson, quoi. Et il est fou de cette chanson. Et quand tu tombes dans cette chanson, tu reviens jamais. Elle est magnifique. Et elle a des similitudes, d'ailleurs, avec des... Tu sais, avoir eu du courage, on était un monstre. Ces oppositions de mots qui font de nous des hommes, des femmes, ce qu'on a de pardon, de lumière. Et la mère, l'enfant. Enfin, moi, j'adore ce texte. Je trouve qu'il est une approche extrêmement subtile. C'est toi qui l'as fait, donc je peux le lire.
Oui, j'en rougis derrière mon micro tout bleu.
Non, c'est un très très grand texte. J'adore cette chanson. On l'a chantée ensemble d'ailleurs.
C'est vrai.
En hommage à Adèle Pech, qui était un type quand même qui faisait passer la poésie de façon incroyable. Parce que c'est un enfant dans sa voix. Il chante, mais hallucinant de simplicité, comment il descend, les trucs, les fins de phrases.
Tout à l'heure, on fredonnait ce lundi-là. Ouais. Qui est pareil, qui est genre de chanson folle. Il avait la grâce absolue, c'est-à-dire que Michel, qui chantait des choses profondes, des choses légères, des choses parce qu'il, comme tu disais tout de suite, avant d'avoir été un monstre, avant d'avoir eu ce courage, faut faire passer ça, ouais. Parce que c'est pas gagné. Je veux dire, de raconter l'être humain dans ce qu'il a de merveilleux, mais aussi souvent dans ce qu'il a de pire.
C'est ce qui est beau.
Reste un ange. Et toi, comment tu te reconnais là-dedans? Elle a été comme ça, ton enfance? T'en as connu des garçons comme ça? Toi, tu l'as ressenti, ça?
Ben, tu sais, c'est juste... C'est des chansons, on ne sait pas pourquoi on les
aime. Ouais, pourquoi on les aime.
C'est elles qui nous aiment. On a rien à... On peut appartenir à un groupe chic qui va dire j'aime cette chanson parce que c'est l'idée qu'ils s'en font. Mmh. Et ils ne l'écoutent jamais, mais il est là le disque. Bon, ça c'est eux, ça c'est pas moi. Mmh. Moi, je suis comme une fille.
Mais toi, c'est charnel.
Moi, je suis une fille. J'ai été élevé comme une fille par ma mère. Ma mère m'appelait Brigitte. Elle m'avait laissé les cheveux, tout ça. Tout le monde me prenait pour une fille. Et j'ai été élevé avec des femmes. Et donc, j'ai une approche comme ça, moi. Donc, c'est vrai, j'ai été un peu...
T'as été un ange.
Maltraité aussi par... ceux qui ont un peu ce pouvoir, tu vois, d'être le type qui rentre vraiment dans la bonne case. Moi, j'ai jamais été dans la bonne case. J'ai toujours été à côté de la plaque. Et ça me va très bien, je vais te dire. Parce que je peux chanter avec Hervé Villard, qui est mon ami. Je peux chanter avec Chrissy, qui est un ami qui fait du rap. Ça me va. Catherine Ringer, et en même temps, pouvoir chanter avec toi.
Je sais que tu as...
Et moi, j'aime bien cette liberté. Qui a dit que, voilà. Qui a dit quoi de ces trucs-là? C'est des conneries. La poésie, c'est le contraire de ça. C'est de l'audace, mais c'est pas de l'audace méchante, c'est pas de la frime. C'est un risque permanent. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien me libérer de toutes ces conneries-là, parce que justement, on m'appelait le gros, ou la gonzesse, ou le PD, et tout ça n'a pas d'intérêt. Tant pis pour eux, j'ai envie de te dire. Ce qui est important, c'est ceux qui se retrouvent autour des mêmes choses, et il y a plus de gens de ce côté-là. On est plus nombreux à désirer vivre avec tous ceux qu'on rejette, sans lesquels on voit pas la vie en entier, d'une certaine façon. Voilà. C'est important, la poésie, c'est... Je suis allé en Algérie chanter, quand j'ai démarré le Dormeur du Bal, juste avant le déserteur, parce que j'avais fait des textes comme ça, et c'est ce que j'ai repris après à l'Olympia, un texte sur les poètes, et sur les poètes qui m'ont inspiré. Ils se tiennent tous la main, les poètes, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Tu peux les mélanger. Eh bien, il y a une dame voilée qui a dit, Arthur Rimbaud, c'est magnifique. Mmh. La poésie, ça lie les gens entre eux. C'est un enfant, la poésie. Il est au niveau de tout le monde, là. Il voit tout le monde. Et il lit. C'est pas une demi-personne, la poésie. C'est une vraie personne entière. Comme un enfant. Et c'est ça qui est beau dans la poésie. Parce que, une dame qui a pas beaucoup de lettres, mais elle entend un monsieur politique qui fait une faute de français, elle l'entend.
C'est vrai.
Voilà. C'est le respect de la beauté des gens, la poésie.
Et est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec un papa de la poésie?
Ah ben voilà.
Avec un type qu'on adore, toi et moi, et qui nous donne du bonheur, qui nous en a souvent donné.
Parfois, en deux couplets, il te raconte sa vie, une vie, ta vie, la vie des gens, en deux couplets.
On
il a fait le tour, c'est magnifique.
Léo Ferré, le bonheur.
Madame, courez-vous dans le silence du tohu-bohu de la rue, madame, tu vas retrouver ton amant pendant que ton mari travaille, madame. trois mailles. Madame, aussitôt là, faut qu'il s'en aille. Alors, profite de l'après-midi. Madame, où courez-vous dans le vacarme et le silence du devoir? Madame, tu vas retrouver ton mari pendant que l'autre fait la pause. Madame, le bonheur, ça n'est pas grand-chose. Madame, c'est du chagrin qui se repose. Alors, il ne faut pas le réveiller. Le bonheur, qu'est-ce que c'est?
Léo Ferré, le bonheur. C'est drôle parce que c'est un constat du conformisme pour moi. Où courez-vous dans le vacarme et le silence du devoir?
Absolument.
C'est vrai.
Et au début, le silence, c'est du tohu-bohu de la rue. C'est extraordinaire comme il inverse les trucs. Et c'est vrai que tu peux être dans le silence d'un vacarme. Enfin, t'es au milieu du vacarme et t'es dans le silence. C'est vrai. Ouais. Ça existe en plus. C'est pas des trucs. Il l'a vu chez les autres, il l'a vu chez lui, il l'a entendu, il l'a ressenti, un truc. Et puis. Le bonheur, c'est du chagrin qui se repose, quand même, faut le faire, ça.
Oui, ça, c'est.
Ça, c'est là la couture.
C'est pareil, celle-là, c'est ce qu'on appelle une très chère.
Oui, celle-là.
Tu vois, parce que c'est à la fois une tournure poétique sublime, c'est un sujet de philo.
Non, et c'est tout.
C'est tout ce qu'on veut.
Il y a tout.
Il y a tout là-dedans.
C'est une pensée.
Ouais.
Humaine.
Et puis, il y a, voilà, en plus, il y a le recul psychologique de ressentir ça. De vouloir dire, ça n'est pas grand-chose, c'est que du chagrin qui se repose.
Surtout qu'il dit juste avant, tu aurais retrouvé ton mari pendant que l'autre fait la pause. C'est quelque chose d'incroyable d'arriver à faire de l'humour sur l'adultère à cette époque-là. C'est-à-dire que
c'est une
femme qui va retrouver son amant.
Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, absolument.
Elle va d'abord chez son amant, et puis il lui dit, le bonheur c'est pas grand-chose, profite de l'après-midi, hein, vas-y, ça vaut pas trois mailles, profite. Et après, tu rentres dans le bacard, le silence du devoir, pendant que l'autre fait la pause. Le chagrin, ça n'est pas grand-chose. Faut pas le réveiller. J'adore discrétion, qui est pas un mensonge, parce qu'elle va pas tout. C'est comme la route de Madison, tu vois.
Ah ouais. Elle raconte une tranche de vie, une vraie.
Et tu sais, dans la rue de Madison, il pleut. Et puis elle s'en va, elle reste pas avec lui. Et t'as envie qu'il reste, mais elle va tout déranger. Et même ça serait dérangé. Même cette histoire, ce sentiment-là, il serait cassé à l'instant. Et donc voilà. Faut pas le réveiller. Il dort, tranquille. C'est le chagrin qui se repose. Laisse-le tranquille. J'adore ça. Moi, je trouve ça d'une pudeur et d'une audace en même temps. Parce que parler de ce sujet-là, c'est quand même très très fort de le faire de cette manière. Si court. C'est deux couplets qui se suivent. Enfin, couplets refrains en même temps. Parce que là, c'est pareil, il tourne dans la Gainsbourg, toi. Mmh. Et, voilà, moi, si un jour je peux faire un truc comme ça.
Alors, nos chers auditeurs, méditez sur la phrase, mais ne vous endormez pas, restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec mon invité, et je l'adore, Marc Lavoine.
On s'éclate.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Europe 1. Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Notre dernière partie, mais mon Dieu que le temps passe vite, avec mon invité Marc Lavoine et cette chanson, son choix, magnifique titre de Françoise Hardy, on l'écoute tout de suite parce que il tiraille de partout ce titre,
musique
ça s'appelle...
Musique de Dutronc.
Et une musique magnifique de Dutronc, mais Dutronc je le mets moi tout en haut de l'étagère, au niveau des compositeurs, je suis fou des musiques de Jacques Dutronc.
C'est magnifique.
Ça s'appelle Partir quand même. Françoise Hardy pour les paroles, Jacques Dutronc pour la musique, deux subtilités mélangées ensemble pour faire cette chanson partir quand même.
C'est-à-dire que c'est très fort, très dense. Et en plus, Dutronc, de temps en temps, il envoie des. Enfin, c'est pas lui qui joue, peut-être, mais ils écrivent des solos, il y en a dans Opium aussi.
Ah non, mais lui, c'est. Dès qu'il sort des trois accords des années 60 de tous les succès extraordinaires et qui sont beaucoup plus subtils qu'on imagine.
Bien sûr.
Quand il est dans la compo mélodique, pour moi, c'est un génie, ce mec-là.
Il a une interprétation. Parfois, les gens disent qu'il peut chanter du bout des lèvres. Je suis pas d'accord.
Non.
Il chante avec tout ce qu'il a. Et il joue la comédie de la
chanson. Il chante retenu, c'est différent.
Et c'est ça, Dutronc. Dutronc, c'est comme un léopard. Il arrive, il est tout doucement. Il chasse pas comme les autres, Dutronc. Ah, c'est non, vraiment quelqu'un qui est très vif, très...
Et puis quand il retient... Enfin, moi, je suis sûr qu'il retient, qu'il interprète. C'est là où il interprète ses chansons. Et il retient les chiens. Parce que jouer du rock, chanter du rock, faut pas oublier qu'il a commencé au Golf Draw, donc il sait faire.
Du Lanzmann, fallait le faire, parce que c'est pas non plus hyper simple. Et puis même quand il fait Gentleman Cambrioleur, la classe, que c'est, quoi. C'est-à-dire quand il interprète la chanson du générique, c'est une folie, quoi. Ça devient sa chanson. Non, c'est un gars.
C'est une chanson de crooner.
C'est un gars génial. C'est un gars génial. Moi, j'aime aussi beaucoup une chanson qui est peut-être moins connue, mais c'est d'un film de Lelouch qui s'appelle Le Bon et les Méchants.
Mais oui.
Quelle chanson!
C'est une chanson de Francis Lai et de Philippe Labro.
Labro, ouais.
Tu vois?
Et franchement, le texte de cette chanson, c'est avec, dans la bouche un goût de sang. C'est magnifique parce que c'est juste entre deux, quoi. C'est juste avant que ça,
je
passe.
Je pense aux gens qui nous écoutent.
Oui,
vient d'écouter François Hardy, on parle que de Jacques Dutronc.
Non, Hardy, c'est un ange. Hardy, c'est la lumière. Quand j'étais petit, moi, je regardais le petit conservatoire. J'avais un grand-père qui était fou de chansons. Et donc, François, il regardait avec moi le petit conservatoire, il chantait toutes ces chansons-là, tout le petit chemin, tout ça. Et il me disait, tu vois, il l'appelait tuyau de poil, François.
Oui, parce que...
Ouais, parce qu'il était toute mince. Il dit, tu vois, tuyau de poil, elle va durer cette petite-là, elle a quelque chose. Moi, cette femme, alors, partir quand même, je t'explique. Cette chanson, je l'adore, je deviens fou de cette chanson, vraiment. Et puis, je réponds à cette chanson. Je lui réponds. Je fais une chanson qui s'appelle Cher ami, qui répond à cette chanson-là. Tu vois? Et je reçois une lettre de chez moi, avec marqué François Hardy. Et elle me parle de cette chanson, Cher ami. C'est incroyable parce que c'est en réponse à votre chanson que j'ai écrit cette chanson-là. Et donc elle me demandait de venir chanter cette chanson-là, même quand j'étais pas en promo sur cette chanson-là, tu vois. Et du coup, on l'a chantée ensemble ensuite. Et c'est fou comme t'as ton grand-père qui te dit rien, là, tu es de poil, elle va faire une grande carrière. Toi derrière, quelques années plus tard, tu écris, tu entends cette chanson, ton amoureux, moi j'écoutais, j'étais amoureux de cette chanson, je suis amoureux de cette chanson. Enfin, ça fait partie de ma vie, cette chanson de Françoise Hardy. Et je lui écris, j'écris cette réponse en pensant que ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver au destinataire, si tu veux. Tu vois, ce serait très présent, très tendancieux de dire j'écris et je suis sûr qu'elle va la reconnaître que c'est.
Bah si, c'est la sensibilité, bah, écoute, ça s'appelle. Et...
Jacques Dutronc était venu me voir un jour, il me dit j'en ai un peu marre qu'elle écoute ça toute la journée. Là. Mais tu vois, la vie est belle quand elle est belle, comme disait l'autre, et ça lui arrive souvent. Et ces moments-là, c'est des moments que j'oublierai jamais parce que quand t'es petit, tu les vois, tu dis moi un jour je serai là-dedans parce que j'aime ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça. Et puis tu rencontres les gens que t'as aimés.
Ça, c'est un truc qu'on a ressenti. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas peur d'avoir gardé cette naïveté et cet émerveillement. Non, tu l'as dû l'avoir quand tu plaçais les gens à l'Olympia.
Bah, tous les jours.
Et tous les jours. Et tu te disais, moi, quand j'étais gosse, je me souviens, je sais plus à qui j'ai raconté ça, je tournais les pages de Salut les copains et je comprenais pas que j'étais pas dedans. Je voulais être dedans. À côté de Claude François, de Johnny, de Sheila, de Sylvie, je me dis, mais moi, mon univers.
Mais je crois, tu sais quoi.
Il est là, c'est pas l'école.
Quand j'ai fait Pause Café, il y avait une fille qui me disait, je connais Didier Barbelivien. Et elle me dit, tu sais quoi? Il regardait les journaux, il disait, là, je devrais être là-dedans. Je te jure que c'est vrai.
Mais tu vois,
ça me revient.
Je ne mens pas.
Elle s'appelait Mimi Young.
Ouais.
Elle avait des copains qui te connaissaient.
Ouais. Mais c'est vrai, je ne mens pas. Enfin,
et elle me dit, mes potes me disent qu'ils disent, je vais être là-dedans, parce que je devrais être là-dedans.
Mais c'est vrai.
Et quelques années plus tard, tu as fait Michel, je crois.
À ce moment-là, j'avais déjà.
Et c'est Michel qui a vraiment, pour moi, fait la différence, si tu veux. Je trouve cette chanson.
Bien sûr.
Cette chanson, elle était dingue. Moi, je l'écoutais toute la journée, cette chanson. C'est une très belle chanson. C'est une très grande chanson. Et voilà. Donc, parfois, des textes comme ça qui te rendent service et avec lesquels tu vis tranquillement. Parce que tu sais, comme je te le disais, moi, j'ai pas été à l'école longtemps. Je me suis barré à 16 ans, à 15 ans et demi.
Je l'ai lu.
Et j'ai bossé. Mon père et ma mère m'avaient dit, tu sais, on n'a pas les moyens de te reprendre. Si tu pars dans ce métier-là, il n'y a pas de ticket de retour. Donc, faut que tu y ailles. Et on peut te laver ton linge, mais on n'a pas de fric, quoi. Enfin, tu te payes un.
C'est ce que je racontais, t'as vu dans mon édito, quand tu descends du train.
Ouais.
J'ai dit, c'est l'histoire d'un jeune homme, il arrive de sa banlieue, il va, il marche. Et de toute façon, il se retournera pas.
Et l'Olympia. Ça a été ma deuxième famille, parce que Jean-Michel, Boris, et puis Serge Rousseau, qui a beaucoup compté pour moi, l'agent de Depardieu et de Verre. Et je lui ai dit, qui était Marie Dubois, et je lui ai dit, monsieur, je vous admire, j'aimerais vous passer des scènes devant vous. Il dit, d'accord. Le mec, d'accord. Il n'y a pas de portable à l'époque.
Non, je sais bien.
Quand tu prenais un rendez-vous, il fallait que tu y ailles.
Ouais.
Puis il était chez Armédia, il est venu à l'Olympia dans la salle de billard, qui m'avait prêté Madame Coquatrix, Paulette, que j'aime beaucoup, et Patricia. Et il est resté une plombe devant moi. Bah, écoutez, du Lorca, du machin, j'en ai fait des tonnes. Et il me dit, écoutez, c'est pas pour maintenant, j'avais 16 ans.
Bien sûr.
Mais ça viendra. Il m'a donné des conseils. Et je les ai jamais oubliés, parce que c'est précieux, un type qui passe 3 heures pour toi. Le mec, il est avec Depardieu, c'est des stars. C'est des gens comme ça qui te sauvent une vie. Et je suis très reconnaissant à tous les gens qui m'ont construit. Je parlais avec la fille de Chabrol tout à l'heure, parce qu'elle a sorti un livre sur ses pères, ses deux pères. Maître, le comédien, et Claude Chabrol. C'est dingue d'avoir pu. Mon père était fou de Claude Chabrol. Il me montrait tous les films de Claude Chabrol. Je vais dans une école de théâtre. Il se trouve fou de Chabrol. Et Claude Chabrol me prend dans son film. Et pour conduire une voiture bleue, je suis le garagiste. Et je lui dis, on dit ensemble, je lui fais, j'ai pas le permis. Il dit, c'est drôle, ça. Que c'est, il est drôle. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il dit, je vous attends, soyez à l'heure. Maquillé, coiffé, à chier. De toute façon, si vous êtes mauvais, je vous montrerai pas. Mais c'était génial de travailler avec lui. Parce qu'il faisait des tragédies, et il était, lui, tout le temps dans le rire, dans la courtoisie. C'est un type qui était très civilisé. C'était ça.
Mais,
ces gens-là,
plus,
c'est des gens
formidables. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos vies d'artistes, est-ce que le meilleur, n'a pas été toutes ces rencontres. Moi, j'ai
et
tendance
dire,
et à le croire. Et celles qui viendront, nous n'avons pas dit le dernier mot.
Non, c'est pour ça que je te parlais de Jossman, je te parlais de Dinos, des gens qui écrivent aujourd'hui. Moi, ça m'a manqué, le texte. Depuis quelques années, ça commence à me manquer, toi. Bien sûr, il y a Gaëtan Roussel, bien sûr. Mais l'arrivée de Orelsan et Jossman, c'est un jeune rappeur, il écrit, mais bien, il écrit. Il y a une littérature renouvelée maintenant, qui est de retour dans la chanson. Et Luciani, Clara, par exemple, La Grenade, c'est un texte extrêmement bien construit. Ces gens-là reviennent et ça fait plaisir.
Et à propos de retour, puisqu'on me l'a dit dans mon casque.
Il faut que je me barre.
Non, c'est pas du tout. Mais on ne se quitte pas sans prendre, évidemment, le train qui nous ramène sur le quai. Il est parti.
Thank you. temps perdu qui prend le dessus. Passent les jours et de jour en jour, c'est les jours heureux qui meurent peu à peu. La vie est si belle quand elle veut. Quand elle veut, elle ressemble à Dieu. Attends, attends-moi, tiens-moi la main. Ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras, le temps d'un câlin. Reste avec moi ce soir. Reste avec moi ce soir. Passe les nuits, suivent les semaines, les mois, les années, jamais ne reviennent. Viennent les heures, les foutus quarts d'heure, quand l'heure a sonné, une vie est passée. La vie est si belle quand elle le veut. Quand elle veut, elle attend un peu. Attends, attends-moi, tiens-moi la main. Ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras, le temps d'un câlin. Reste avec moi ce soir. 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 La vie est si belle quand elle y veut. Quand elle le veut, elle attend un peu. Attends-moi, tiens-moi la main. Ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras, le temps d'un câlin. Reste avec moi. Attends, attends-moi, tiens-moi la main. Ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras, le temps d'un câlin. Reste avec moi ce soir. Reste avec moi ce soir. Reste avec moi ce soir.
On va pas rater le train.
Non, d'autant plus qu'il vient d'arriver en gare.
J'ai
un peu de peine à te quitter parce que t'es pas qu'un poète devant ta feuille. T'es un poète dans ta parole. T'es un poète dans ton expression. Ça fait quelques années que je te connais. Ouais, t'as toujours été.
On change pas beaucoup, nous. On est resté
un petit peu quand même.
Non, physiquement, mais... tu dis on change, bien sûr, un peu.
Mais on est resté quand même. Sentimentalement, on reste quand même des petits adolescents, des petites crapules qui.
Mais on est gentils. Moi, je crois à la gentillesse. Je crois à la gentillesse. L'amitié et la gentillesse. Voilà, c'est un câlin. Moi, j'aime les câlins. J'aime dire aux gens que je les regarde dans les yeux, je les considère. Bien sûr, je suis pas leur pote. On se tape pas dans le dos. Il y a une distance. On fait du spectacle. Mais je les aime beaucoup.
Alors redis-le à nos auditeurs.
Quoi, que je les aime beaucoup?
Ouais,
moi je les aime beaucoup.
Moi
je les
aussi.
Aime beaucoup.
Allez, à bientôt. Salut, salut Marc.
Merci.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Vous venez d'écouter « Dis-moi ce que tu chantes » sur Europe 1, effectivement, et vous étiez, sans le savoir, en compagnie de Maryse Jacquet, de Benoît Valentin, de Rémi Duprat et de René Aubry au générique.